Les Lève-Tôt pour l'heure 13h jusqu'à 13h30, Ma France, Wendy Bouchard.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Bonjour à tous, merci d'être fidèles à Ma France. Au sixième jour d'un conflit entre Israël et l'Iran, nous n'aurons aucune pitié pour Israël, déclare à l'instant l'ayatollah Khamenei, qui menace de dommages irréparables une éventuelle entrée en guerre des Américains. L'Iran, dit-il, ne se rendra pas. Les familles des otages Cécile Keller et Jacques Paris sont dévastées. Israël, par ailleurs, met en place un dispositif d'aide au départ pour les touristes qui voudraient quitter le pays. En France, la chaleur s'installe partout dans le pays. 34 degrés à l'ombre en moyenne cet après-midi, avec peut-être ce week-end un épisode caniculaire. En attendant, protégez-vous, hydratez-vous, pensez aux plus fragiles et à vos animaux. Les tickets restaurants resteront utilisables dans les supermarchés après 2027. C'est une annonce du gouvernement et on fait le point pour vous dans ce journal. Au cœur de vos régions, le scandale Takata, vu par des usagers dans le Nord, les candidats au bac côté Marseille. Et puis le lancement demain du plus grand festival de France de musique, la métal, hard rock, à l'honneur notamment, c'est le Hellfest de Clisson. 13h15, je vous donne donc envie de lire et de faire lire avec l'opération Partir en livre et ce livre-drome qui fait un tour de France pour inciter les jeunes à la lecture sur le thème des animaux cette année. Mais d'abord, cette commémoration capitale, celle de l'appel du 18 juin, il y a tout juste 85 ans. Une cérémonie ce matin a été présidée par François Bayrou sur le mont Valérien dans les Hauts-de-Seine, un lieu de mémoire où 1000 résistants, communistes et juifs ont été fusillés par les Allemands durant l'occupation. Ces sacrifiés illustrent tous l'appel historique du 18 juin, lancé par le général de Gaulle sur la BBC, en direct de Londres, qui réagit face à la demande d'armistice faite par le maréchal Pétain la veille. Depuis l'Angleterre, il enjoint les Français à continuer la lutte contre les nazis et la guerre mondiale. Et derrière son poste, ce jour-là, il y a 85 ans, Léon Lahiré, il a 101 ans aujourd'hui, une mémoire intacte. Il s'engagera dans la libération de Tarbes après avoir entendu ces mots déterminants pour lui.
Il n'y avait pas la télé à l'époque, il n'y avait que la radio. Ici, Radio Londres, les Français parlent au français. On écoutait ça et De Gaulle, il arrive, la France a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre, les alliés continuent et à la fin, on sera vainqueur. Et il avait dit à tout le monde de rejoindre Londres. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans et j'avais un copain qui avait 2 ans de plus que moi. Et bien, tous les deux ont dit, eh bien, on ne peut pas y aller à Londres, on n'a pas eu qu'est-ce que tu veux qu'on foutre là-bas.
Est-ce que c'est cet appel du général de Gaulle qui vous a donné envie de résister, vous engager?
J'avais participé avec le groupe Pierre à la libération de Tarbes.
Vous êtes fier de ce que vous avez fait?
Je vais vous dire honnêtement, c'est pas pour moi, c'est pour ceux qui sont morts à côté de moi.
Ceux qui avaient 18 ans, 20 ans à l'époque, la génération de Léon Lahiré, qui sont morts pour la France, ils portent pour eux aujourd'hui la Légion d'honneur et la médaille d'honneur de la ville de Tarbes. Ces propos émouvants ont été recueillis par ici Béarn Bigorre, par Najette et Sadouki. Au sixième jour du conflit entre Israël et l'Iran, Emmanuel Macron préside cet après-midi à son retour du sommet du G7 un nouveau conseil de défense avec au menu des discussions la sécurité des ressortissants français. Le ministre des Affaires étrangères recommande d'ailleurs aux Français de Téhéran de se mettre en sécurité à l'extérieur de la ville. L'armée de Tsahal, elle, continue de cibler l'arsenal nucléaire iranien et en réponse, le guide suprême Khamenei a promis que son pays allait riposter avec force et, je le cite, ne fera preuve d'aucune pitié face à Israël. L'Iran ne peut pas se rendre, ajoute l'ayatollah, et toute intervention militaire américaine entraînera des dommages irréparables. Donald Trump appelle lui à la reddition du régime des Mollahs. Il assure que les États-Unis peuvent tuer ce guide suprême, mais on peine toujours, Sébastien Paour, à connaître la position et la décision américaine.
Un nouvel appel à Benjamin Netanyahou, un conseil de sécurité nationale d'1h20 à la Maison-Blanche avec le vice-président J.D. Vance et le chef de la diplomatie Marco Rubio notamment, mais on ne sait toujours pas si les États-Unis vont s'engager ou pas dans la guerre aux côtés d'Israël. Il y a en gros deux options sur la table, soit des frappes sur le site d'enrichissement d'uranium de Fordo, au sud de Téhéran. Les Américains sont les seuls à avoir les bombes capables de l'atteindre à plusieurs dizaines de mètres sous terre, soit l'option diplomatique, tenter une nouvelle rencontre entre l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères. À en croire ses messages d'hier, Trump semblait plutôt penché pour la première option. On ne va pas l'éliminer pour l'instant, mais on sait très bien où se trouve le guide suprême iranien, où l'Iran doit capituler sans condition.
Et dans ce contexte de guerre, il y a deux Français en particulier qui vivent ces événements de manière plus dramatique encore. Deux Français toujours otages de l'Iran et qui depuis 3 ans sont retenus dans les geôles du pays. Cécile Keller et son compagnon Jacques Paris. La situation est pour eux effroyable et c'est la sœur de la Française détenue, Noémie Keller, qui nous en parle.
En fait, c'est terrible. Les coups de fil qu'on a, c'est très aléatoire. On ne sait jamais quand ils vont appeler et c'est toujours très court, sous la pression de leur geôlier. Et là, Cécile et Jacques sont dans un état de désespoir extrêmement avancé. Ils n'y croient plus. Ils sont à bout de force. Donc, ils étaient déjà très fragilisés avant les frappes. Et aujourd'hui, on est certain qu'ils les ont entendus. On ne sait pas à quel niveau d'information ils ont accès. Ils doivent être terrifiés. Et encore une fois, ni nous, ni les autorités françaises n'avons de moyens d'entrer en contact avec eux. Et c'est quelque chose qui nous terrifie tous les jours.
Noémie Koller, la sœur de Cécile Koller, détenue depuis 3 ans, otage en Iran, au micro de Jérôme Chapuis. Les autorités israéliennes annoncent par ailleurs un dispositif d'aide au départ des touristes qui souhaitent quitter Israël en raison de la situation. Les ressortissants français qui souhaitent partir doivent remplir un formulaire des autorités disponible sur le site du Quai d'Orsay. L'espace aérien israélien étant toujours fermé, ils peuvent quitter Israël par la Jordanie et l'Égypte par voie terrestre pour prendre ensuite un vol pour la France. Il est 13h06 et dans l'actualité en France, il y a aussi du nouveau pour les tickets restaurants. Vous pourrez les utiliser pour les courses alimentaires au supermarché. Dispositif lancé pendant le Covid pour soutenir le pouvoir d'achat des Français. Dispositif, vous le savez peut-être, prolongé jusqu'à la fin 2026 en attendant une réforme. Eh bien hier, Tristan Ranea, la ministre du Commerce et des PME, Véronique Louwagie, a annoncé à Ouest-France que ce dispositif serait pérenne au 1er janvier 2027.
Oui, une décision qui était attendue par de nombreux salariés. Selon une récente étude de la Commission nationale des titres restaurants, 96% des utilisateurs souhaitaient cette prolongation à partir du 1er janvier 2027. Acheter en grande surface des pâtes, du beurre ou de l'huile avec ces titres restaurants sera donc toujours possible et ce, indéfiniment.
La ministre qui annonce également la dématérialisation de tous ces titres restaurants.
Fini les tickets qui débordent du porte-monnaie. Véronique Louwagie ne veut plus aucun titre en format papier. À la place, une carte rechargeable qui fonctionne comme une carte bleue. La ministre justifie cette mesure par la gestion très lourde qu'imposait le papier aux restaurateurs. En conséquence, les émetteurs de titres restaurants ont jusqu'à fin 2026 pour vider leur stock de papier.
Des titres restaurants que vous pourrez donc utiliser de nouveau et pendant un moment en grande surface, une utilisation qui reste très critiquée, cela dit, par les professionnels de la restauration.
Mais ils dénoncent un mauvais coup porté aux restaurateurs et réclament l'instauration d'un double plafond plus élevé pour la restauration que pour la grande distribution. Par exemple, vous dépensez 25 euros par jour dans un restaurant, mais seulement 19 dans un supermarché. Cette piste est prise très au sérieux, assure Véronique Louwagie, mais elle alerte sur la nécessité de vérifier sa faisabilité juridique.
Tristan Ranea pour ICI, merci beaucoup. Cette information d'ICI Isère à présent. Un détenu s'est évadé du centre pénitentiaire Grenoble-Vars. Il a profité d'une sortie encadrée et organisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour s'évader. Une voiture l'attendait sur le parking de la prison. Les moyens de la gendarmerie sont déployés actuellement dans tout le département de l'Isère pour tenter de l'arrêter. Dans l'actualité encore, cette annonce du ministère de l'Intérieur. Bruno Retailleau lance aujourd'hui 48 heures de contrôle renforcé dans les transports pour interpeller les clandestins. Opérations et contrôles jusqu'à demain soir 20h qui vont se démultiplier dans les gares, à bord des trains, des bus, en particulier à destination ou à l'arrivée des pays voisins. 4000 forces de l'ordre sont mobilisés dans le cadre de cette opération de lutte contre l'immigration irrégulière. La chaleur, je vous le disais, s'installe partout en France et vous le constatez avec un mercure qui grimpe jusqu'à 37 degrés dans le Languedoc-Roussillon par exemple aujourd'hui. Cette chaleur progresse vers le nord demain, vers le centre-ouest, vers le sud-est avec vendredi 35 degrés à l'ombre en moyenne partout en France. Pensez évidemment à vos proches, à vous hydrater, à fermer les volets, à garder des abris, de l'eau à disposition aussi pour vos animaux. Se rafraîchir, c'est le maître mot, avec des communes qui jouent le jeu également. À Albi, par exemple, des jets d'eau ont été installés devant le palais de justice. Ils s'élèvent dans le ciel en cadence, pour le bonheur notamment des enfants, Pascal Daniel.
Boucle blonde, robe à fleurs, à tennis blanche, Myriam, 5 ans, haute comme 3 pommes, s'amuse au rythme des jets d'eau.
J'étais restée dedans de l'eau et après je suis ressortie. Des allers-retours dans l'eau.
Des jets qui montent à tour de rôle jusqu'à hauteur d'adulte. Un bonheur rafraîchissant partagé par sa mère Fatima.
Oh, moi j'adore ici. Oui, chaque soir quand j'ai le temps, je ramène les enfants ici pour s'amuser un petit peu. Dans l'eau, oui, oui. Et il fait chaud, c'est rafraîchissant un peu et tout. Pour les enfants, c'est amusant. Et nous aussi, ça c'est une piscine gratuite.
Les jets d'eau amusent aussi Maïté du salon de thé juste en face.
On aimerait juste sortir de la boutique pour aller se mettre sous l'eau. faire comme eux.
Albi a la chance d'avoir un deuxième site où les enfants pataugent. Il se situe place du Vigan.
Voilà pour Albi. À Bergerac, la mairie lance une nouvelle campagne de prévention pour ne pas laisser vos animaux dans vos véhicules, même pour aller chercher le pain en pleine chaleur. Cela peut leur être fatal. En un quart d'heure, la température monte à 60 degrés. Il faut donc rappeler les conseils de base, comme le constate Gérald Trappi. Il est adjoint au maire à Bergerac en charge du bien-être animal et il voit hélas de plus en plus de gens laisser les animaux seuls, enfermés pendant leurs courses.
On constate en se promenant dans les villes, lorsqu'il y a des maraudes ou sur les parkings, hein, en termes citoyens, devant les grandes surfaces, qu'il y a encore des animaux qui sont laissés dans les voitures. 2-3 minutes, la personne, c'est pas forcément volontaire, mais le laisse en dire « je vais faire une course », comme on peut laisser des bébés, des nourrissons dans les voitures. Il y a encore des gens qui le font, et il faut toujours rappeler, même si c'est pas volontaire, 5 minutes, c'est trop tard. Donc il faut être très 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 vigilant. La voiture, on peut se retrouver, c'est comme un incinérateur. Donc c'est un accumulateur de chaleur. C'est comme un four cramatoire.
Et attention à ce temps sec ensoleillé, ces très fortes chaleurs, des températures qui progressent jusqu'au week-end avec un pic de chaleur et peut-être une alerte canicule pour la fin de semaine. Et puis vous allez retrouver peut-être l'un de vos petits rituels de l'été tout bientôt. L'émission Fort Boyard revient le 5 juillet pour une nouvelle saison animée par Olivier Mine sur France 2 en partenariat avec ICI, des épreuves inédites et hautes en sensation et toujours dans le rôle de notre chef culinaire du Fort, le copain d'ICI, Willy Romelli.
ICI, l'actu au cœur des territoires. Ma France.
Dans Ma France et au cœur de vos régions maintenant, on revient sur l'inquiétude provoquée par la mort d'une femme à Reims. La semaine passée, une conductrice tuée par l'explosion de son airbag. À la demande du ministre des Transports, hier, Citroën a demandé l'immobilisation immédiate de toutes les C3 et DS3 équipées de ces airbags Takata en Europe. Mais ce nouveau scandale inquiète les automobilistes partout en France. Écoutez ses ressentis sur un parking à Outreau pour ICI Nord.
Ça m'inquiète parce que peut-être ma voiture est concernée. Après, je me dis, j'ai pas eu de courrier, mais avec l'article que j'ai vu, je me dis, je vais quand même aller me renseigner. On sait jamais au concessionnaire savoir si ma voiture est concernée ou pas quand même.
J'ai eu mon rendez-vous, je viens de changer mon airbag. C'est dangereux vu qu'il y a eu un mort. C'est époque 1, il y en a eu 12, il me semble. Puis moi, ça faisait 3 ans que je l'avais cette voiture-là, donc c'est vrai que de me dire, je pourrais plus être en danger n'importe quand sans le savoir.
C'est quand même aberrant qu'on met des sommes folles dans des bagnoles et puis qu'on se retrouve comme ça, quoi. Moi, tout ça, ça me révolte. Hein.
Et selon Stellantis, 82 000 voitures supplémentaires sont concernés par ce rappel Stop Drive. Votre radio ICI, près de chez vous, près de vos familles, accompagne aussi les lycéens dans leurs épreuves du bac. Ils sont 386 000 à plancher jusqu'à demain dans leur spécialité, épreuve avec très fort coefficient, la physique-chimie, les maths, la géopolitique ou les sciences politiques. Ces deux dernières disciplines sont choisies par ces lycéens de Saint-Exupéry, dans les quartiers nord de Marseille, et l'actualité, évidemment, les guides, Mathilde Vinceneux.
Dans les copies des élèves de cette spécialité, l'actualité est partout. Une lycéenne raconte avoir parlé de Katy Perry dans sa dissertation sur la conquête de l'espace. Bilal, lui, doit plancher cet après-midi, alors il suit chaque évolution du conflit entre Israël et l'Iran.
Quand j'ai refait mes fiches de révision, j'ai rajouté les pressions que mettent l'Iran à propos du détroit d'Hormuz. Ça pourrait faire une bonne accroche.
Les cours de géopolitique lui ont permis de mieux appréhender toutes les informations qu'il lisait aussi sur le conflit israélo. Palestinien.
Ça date pas du 7 octobre. Il y a la guerre de 6 jours, la première intifada, la deuxième. Ça nous a aidé à comprendre le pourquoi du comment, pourquoi ça dure autant aussi.
La situation à Gaza est évoquée par les élèves.
J'ai fait mon ouverture sur conflit aujourd'hui en Palestine parce que le sujet c'était juger les génocides et les crimes contre l'humanité.
Zeyneb, elle assure que les cours d'HGGSP lui ont permis de développer son esprit critique.
Même si on fait pas de maths ou de physique-chimie, on a plus de connaissances dans des débats. Par exemple, quand on parle avec des gens, ben, c'est pas seulement nos opinions à nous, c'est des faits historiques, c'est des faits réels en fait, qu'on apprend.
Cette spécialité, conclut un autre élève, c'est un énorme bagage pour comprendre le monde.
Et puis dans notre tour des régions, on s'arrête pour terminer en Loire-Atlantique, à quelques kilomètres de Nantes, pour l'ouverture demain d'un des plus importants festivals de métal et de hard rock en Europe, le Hellfest. Il va attirer pendant 4 jours, écoutez bien, 180 artistes et près de 240 000 festivaliers venus du monde entier, souvent tatoués, vêtus de noir. Le Hellfest, littéralement festival de l'enfer à Clisson. Intéressant de savoir comment le curé du village le vit. Eh bien Anne Bertrand, vous avez rencontré le père Nicolas Harel. Il n'a rien contre le Hellfest, même s'il n'y a encore jamais mis les pieds.
Je n'ai pas été au festival du Hellfest parce que je n'ai pas les moyens de payer un billet pour le Hellfest. Voilà. Mais si on m'offrait des billets, j'irais peut-être faire un tour pour voir comment ça se passe.
Le père Harel n'a pas peur donc de franchir les portes de l'enfer.
Ah oui, non, moi ça me pose aucun problème, je n'ai rien à craindre. Je me dis, il y a au moins des gens qui croient à l'enfer, qui l'expérimentent.
Mais il met en garde quand même les festivaliers.
Parce que j'accompagne des gens qui ont été confrontés à des présences démoniaques. C'est beaucoup moins sympa que le Hellfest. Faut quand même pas trop jouer avec le feu et on peut pas toujours rire de tout.
Sa cathédrale, ses croix, sa gardienne des ténèbres, les références bibliques sont partout au Hellfest. Plutôt que du blasphème, le curé de Clisson préfère y voir une contre-culture.
Et moi, d'un côté, je me dis, pour qu'une contre-culture existe, il faut bien qu'il y ait une culture quelque part. Et donc, ça justifie mon existence, entre autres. Alors, c'est sûr qu'on ne fonctionne pas sur le même type de public, mais bon.
Et parfois, si, le dimanche à la messe, le père Harel voit quelques métalleux. Et certains, même, viennent s'égarer en semaine dans son église.
Ils viennent profiter du silence, du calme et du côté très paisible qu'offre l'église de Clisson. Et c'est plutôt réjouissant.
Et ce n'est pas leur look qui va choquer le curé de Clisson. Comme il dit, toute l'année, il est habillé en noir. Bon, lui, c'est avec en plus le col romain.
Le curé de Clisson, merci Anne Bertrand et les organisateurs du Hellfest qui doivent se rencontrer prochainement pour confronter, comme vous le dites, leur vision de l'enfer.
Ici, avec Wendy Bouchard, Ma France.
Dans Ma France, nous faisons désormais l'éloge du voyage par le livre et avec le livre, avec en ce mois de juin un très beau festival pour la jeunesse, festival itinérant Partir en livre qui se décline en milliers d'événements à travers le pays. Bonjour à vous deux, chers amis, vous qui allez nous guider dans cet itinéraire. Gauthier Morat, directeur du Livredrome. Bonjour Gauthier Morax.
Bonjour.
Et Anne-Flore Hervé, journaliste spécialisée en littérature jeunesse. Bonjour,
bonjour.
Anne-Flore. Ce programme, Partir en livre, vous le connaissez bien l'un et l'autre, c'est une mobilisation du monde associatif, de très nombreux partenaires, et on va le voir sous le signe de la fête, des événements, des ateliers, pour donner le goût de lire. Et c'est vraiment un moment fort que vous partagez, Gauthier, le premier.
Oui, Partir en livre, c'est un événement qui a maintenant 11 ans et c'est une initiative du Centre National du Livre avec cette envie partagée qui est plus qu'une envie, qui est un enjeu, je dirais, de santé publique, qui est un enjeu économique aussi, qui est la question des lecteurs de demain, les plus jeunes, mais aussi les adolescents, parce qu'on sait que toutes les études le montrent, et notamment la dernière du CNL, les adolescents, il y a un vrai décrochage avec la lecture qui s'opère à partir du collège généralement, parfois même un peu avant. Et donc, je crois qu'il y a 11 ans, il y a eu cette espèce de mobilisation générale à l'initiative du Centre National du Livre pour essayer de redonner envie de lire à cette génération, considérant à la fois tous les bienfaits que la lecture peut apporter. J'oserais dire qu'une forme de diète de lecture chez les adolescents et chez la jeunesse. Et donc, la question, c'était comment on répond à ce sujet-là.
Oui.
Et une des réponses apportées a été la création de cet événement qui s'appelle Partir en livre. Plus de 6000 opérations, je crois, cette année partout sur le territoire, portées par des acteurs associatifs, vous l'avez dit, des acteurs du livre, pour essayer de repenser les formats, dans le fond, de médiation. Le Livredrome en est un exemple, on en parlera. Les formats de médiation autour du livre et de la jeunesse, hors du temps scolaire ou en toute fin d'année scolaire, parce que je crois que c'est un des éléments importants, c'est la manière dont on joue sur la représentation que peuvent avoir les jeunes sur le livre. Et cette représentation-là, elle est très conditionnée par leur rapport scolaire. Et l'idée, c'était de sortir ça, le faire sur un temps estival, dans
des lieux
ouverts, publics et festifs.
Et très couleur ici, si j'ose dire, parce que vous sillonnez vraiment la France, avec notamment ce Livredrome, ce parc d'attractions littéraires qui invite tous les jeunes à chaque étape. Et vous étiez hier à Mulhouse, on en parlera, différentes attraction littéraire. Anne-Fleur Hervé, c'est pas évident de résumer ou de définir la littérature jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de genres, évidemment, la BD, la science-fiction, les polars, la poésie, mais que lisent les plus jeunes des lecteurs qui viennent vous voir, s'ils lisent?
En fait, si les plus jeunes lisent avec un médiateur, avec un adulte, tant que les jeunes ne savent pas lire, ils ont besoin d'un adulte pour lire un livre avec eux. Donc en fait, c'est vraiment un triangle, la lecture avec les plus jeunes. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est parce qu'il y a une vraie connexion. Il y a le livre, l'adulte et l'enfant.
Bien sûr.
Et donc là, ce qui est important, c'est aussi de convaincre ces médiateurs, les parents, de lire de livres aux enfants, d'avoir ce temps, parce que là je parle des plus petits évidemment, pas des adolescents. Et à partir du moment où, enfin je sais pas si vous avez fait l'expérience déjà, mais quand on lit un livre à un enfant, il y a un lien qui se crée. Quand le livre, il y a des réactions, il y a des interactions, il y a plein de choses qui peuvent se passer.
Il y a un rituel qui s'instaure et qui doit durer le plus longtemps possible.
Tout à fait. D'ailleurs, une fois qu'ils savent lire, faut pas arrêter de lire avec eux.
Oui.
Surtout pas. C'est un vrai plaisir, hein. Enfin, pour les parents, mais même pour les médiateurs, quels qu'ils soient, de lire à voix haute. un petit roman, c'est vraiment très très bien.
Donc, ouais, on le voit d'ailleurs dans tous les concours d'éloquence, hein, ce qu'on a appris, ce qui a été imprimé dès le plus jeune âge, c'est-à-dire la lecture du soir avant de faire dodo, Gauthier Morax, ça laisse des traces magnifiques dans son rapport aux mots, dans son rapport au pouvoir des mots.
Je le crois, je partage complètement votre avis. On a tendance souvent à considérer que, dans le fond, à partir du moment où les enfants savent lire, c'est-à-dire en gros à partir du CE1, il faut arrêter de lire avec eux. Je pense exactement comme vous. Je pense que c'est exactement l'inverse. Au contraire, toutes les études le montrent. Il y a une chose qui est lire, il y en a une autre qui est déchiffrée. Et je pense qu'à cet âge-là, on n'est plus sur le déchiffrement des mots et que continuer le plus longtemps possible ce rituel-là est quelque chose absolument de fondamental pour encourager et donner envie de lire. Oui.
Lire et faire lire avec toutes les vertus de ce rapport au texte, ben ce soir dans la grande librairie sur France 5, vous allez découvrir les candidats d'un concours d'éloquence et de lecture à voix haute. Ils sont 9 collégiens finalistes et lycéens qui vont se confronter par le verbe. C'est Yann Vogel qui va représenter le Grand Est. Il a 14 ans, élève à Phalsbourg et il s'entraîne d'arrache-pied depuis le début de l'année, Olivier Vogel.
Le chewing-gum, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Cet hiver, la pénurie est si grande que je le partage avec Franck. Il mâche les jours pairs, je mâche les jours impairs.
La lecture en public, Yann a ça dans le sang depuis qu'il sait lire.
J'aime bien lire, j'aime bien surtout faire du théâtre. Ma passion, c'est quand même bien le monologue. Des textes de Raymond Devos, Molière, j'aime bien l'avoir, c'est ma pièce préférée.
Et pour entrer dans son personnage...
Comprendre le texte, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est pas possible de pouvoir lire un texte qu'on ne comprend pas.
3000 candidats au départ, 9 à l'arrivée.
C'était une belle surprise, on s'y attendait pas.
Comme sa mère, Caroline, Yann, scolarisé en 4e à Phalsbourg, n'est pas peu fier de représenter le Grand Est à la finale de l'émission Si on parlait à voix haute.
Toute ma classe sera derrière le poste de télévision, ça c'est évident. Tout le monde croit en moi, ma famille, mes amis, ma classe, mes profs, les personnels d'éducation, etc.
Et sur le plateau de France 5, Yann entend bien ne pas faire de figuration.
Comme tout le monde, on peut tous ramener à la coupe à la maison, à Phalsbourg.
Ouais, moi, je trouve ça génial, Gauthier Morax et Anne Florey Hervé, de voir un jeune qui est si enthousiaste. Il n'est pas là sur un terrain de foot, il est sur un terrain d'éloquence. Ouais, c'est
bah,
beau.
Oui, clairement, c'est vraiment, c'est ce qu'on peut espérer le plus, voir ça. Enfin, en tout cas, de transmettre ce plaisir de lire et de ce plaisir aussi de lire à voix haute, c'est très important à mon avis. Et il se trouve en plus que parmi les livres de littérature jeunesse, il y a des choses extraordinaires et du coup, ils peuvent vraiment trouver du plaisir.
Bien sûr, c'est ça.
Parce qu'il y a des auteurs et des autrices, qui savent vraiment s'adresser aux enfants, aux plus grands, et qui traitent toutes les thématiques. Il y a de quoi faire, en fait.
Problématique très pertinente, évidemment, et qui parle à ces jeunes et à ces enfants. Partir en livre, c'est ce festival que vous mettez l'un et l'autre, et l'une et l'autre en lumière, avec une thématique qui va accrocher les enfants et les jeunes autour des animaux et nous.
Oui.
Alors ça, c'est très important que vous nous en parliez, Anne-Flore, parce que c'est un rapport qui interroge notre sensibilité, notre complicité, le fait que nous participons à la même communauté du vivant, c'est hyper accrochant,
oui,
et c'est en plein dans la littérature.
Oui, et du coup, alors les animaux, c'est-à-dire que les animaux et nous, en fait, c'est aussi nous lecteurs, quoi, les animaux dans les livres jeunesse. Donc, alors, c'est vrai que moi, je me suis occupée de la bibliographie, ce qui était un peu vertigineux, parce qu'en fait, depuis qu'il y a des livres jeunesse pour les jeunes, il y a des animaux, enfin, pratiquement des animaux dedans tout le temps.
Oui.
Je sais pas quelle est la proportion, mais enfin, c'est assez énorme. Donc voilà, il a fallu... Et effectivement, dans les thématiques qui sont abordées, il y a ce rapport au vivant, la place qu'on a, quelle place on donne aux animaux par rapport à nous. Enfin, il y a des choses qui sont de cet ordre-là. Il n'y a pas que ça, mais il y a ça, effectivement, qui est très intéressant. Il y a des mêmes collections qui... Mais alors par contre, ça y est, évidemment, j'ai oublié le nom de la collection, je suis désolée. Mais enfin, en tout cas, c'est...
Qui réagissent à ce rapport, justement,
oui,
entre la faune, les animaux et nous-mêmes. Festival dans lequel on participe et on joue autour du livre, Gauthier Morax. Et je voudrais que vous nous parliez du Livrodrome, formidable initiative, qui est une sorte de laboratoire d'expérimentation, un parc d'attractions littéraires. C'est pas beau, ça. Quelle idée de folie. Et vous avez commencé hier à Mulhouse et vous sillonnez la France jusqu'au 11 juillet. Comment nous décrire un petit peu l'ambiance?
On était effectivement hier à Mulhouse. Là, l'équipe est en train de m'écouter, est en train de revenir sur Paris,
oui,
parce qu'on enchaîne sur Asnières-sur-Seine. Le Livrodrome, c'est effectivement un parc d'attractions littéraires. C'est-à-dire, l'idée, c'est de reprendre tous les codes du parc d'attractions, des dispositifs ultra ludiques, extrêmement participatifs, incroyablement interactif, décalé, inattendu, jouer sur la représentation, je le disais, que les jeunes peuvent avoir du livre pour complètement changer cette représentation-là et montrer que le livre peut être un loisir. Donc l'idée, c'est de proposer depuis 6 ans maintenant, grâce au Centre National du Livre, un peu partout en France et grâce au concours des villes, évidemment, et tous nos partenaires, tous, dans le fond, une espèce de fête foraine dans lequel on vient et on déambule entre 20 dispositifs qui sont tous liés à l'écriture, à la lecture, au dessin, à toutes les pratiques qui peuvent
Donnez-nous une attraction singulière.
Bah, la cabine d'ordonnance littéraire, par exemple.
Cabine d'ordonnance littéraire.
On est dans une cabine, comme dans ce studio, et on se retrouve face à un libraire, un médiathécaire, un auteur ou une autrice, et puis on converse pendant 6-7 minutes. Et à l'issue de cet échange-là, on se voit prescrire une ordonnance littéraire avec des livres, soit qui vont approfondir notre goût pour la lecture, soit qui vont nous donner envie de lire.
Pas mal.
Pétanque littéraire aussi, qu'on avait fait avec une professeure de philosophie à Marseille, où on jouait à la pétanque, mais il y avait quelques astuces créatives qui avaient été mises en place pour permettre aux jeunes, à l'issue de cette partie de pétanque, de repartir avec des livres qu'eux-mêmes avaient choisis.
Super. J'ai vu des jeunes avec des gants de boxe qui s'essayaient à l'écriture.
Oui, l'année dernière, effectivement, la thématique n'était de partir en ligne n'était pas les animaux et nous, mais le sport à l'occasion des JO. Et donc, on avait inventé comme ça dans chaque ville. Chaque année, on parcourt 10 villes, 10 villages, parfois des communautés de communes, pour aller à la rencontre de ces adolescents, puisque l'une des particularités, c'est vraiment de s'adresser, nous, exclusivement aux adolescents de 11 à 18 ans, et même aux plus âgés d'entre eux, aux jeunes adultes. Et effectivement, on avait proposé dans chacune des villes un dispositif autour du sport. Ça pouvait être de la boxe, du sessifoot, du foot littéraire, de la pétanque, de l'escalade. Bref, on essaye vraiment de s'emparer de toutes les pratiques qui sont les leurs et d'essayer d'y mettre du livre quand il n'y en a pas. Et quand il y a du livre, de les rendre les plus ludiques possibles. Et ce qui est formidable, c'est que ça marche.
Écoutez comment ils en parlent, participants, jeunes, organisateurs et encadrants.
Quand j'en ai parlé autour de moi, les gens ils me disaient « Mais qu'est-ce que c'est ?» Tu connais le Tour de France ? C'est le Tour de France des livres.
On a des activités littéraires.
Même si vous n'aimez pas lire, peut-être ça va vous donner le goût de vouloir lire. Et si ceux qui aiment lire, bah, c'est l'endroit parfait.
Le Livredrome, il va passer partout en France cet été et très probablement à côté de chez vous. Donc renseignez-vous sur le site internet pour venir.
9 étapes, en effet, jusqu'à Marseille le 11 juillet. Asnières-sur-Seine, vous y serez après-demain. Vous serez à Saint-Just-en-Chaussée, à Maubeuse, à Paris le 28 juin, à Chalon-sur-Saône, à Lons-le-Saunier, le 8 juillet à Martigues. Anne-Fleur Hervé, quel cri du cœur vous pouvez lancer autour de ce festival Partir en livre qui se décline avec ces événements?
Moi, en fait, ce que je trouve, et c'est la philosophie de ce festival, c'est au lieu de faire venir les enfants au livre, c'est le livre qui va vers les enfants. Et pour moi, c'est la clé. Enfin, c'est complémentaire en fait. C'est mieux ou moins bien, mais c'est complémentaire et c'est aussi une clé, par exemple, pour aller vers des enfants qui seront éloignés du livre pour des raisons X, Y, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais voilà, c'est de provoquer des rencontres. Et donc, j'ai envie de dire, si vous voyez le Livredrome ou il y a un autre parc.
Allez-y, poussez la porte.
Allez-y, jouer. Parce que voilà, c'est des rencontres. C'est surtout des rencontres. En plus, il y a des auteurs et des autrices qui s'impliquent.
Absolument.
Et qui sont... Voilà, donc si c'est l'occasion de faire une rencontre, c'est super.
Partir en livre à travers tout le pays. Merci beaucoup de nous en avoir parlé, Anne-Fleur Hervé et Gauthier Morax, avec ce génial Livredrome à suivre ici. Merci.
Ici, Ma France.
On se quitte avec votre rendez-vous anti-arnaque, anti-fake news au Drazo, avec cette fausse info qui vient d'atteindre quand même le million de vues sur Facebook, qui prétend que tous les Français vont devoir payer une taxe tous les mois pour aider l'Ukraine.
Et c'est totalement faux. Effectivement, 1 million de vues, 10 000 partages, 5 000 commentaires, rien que sur le post Facebook que j'ai là sous les yeux. C'est Muriel, une auditrice qui me l'a transféré. Je pense, me dit-elle, qu'il s'agit d'un gros fake et elle a raison. Voilà un petit extrait.
Une nouvelle mesure suscite l'indignation. Tous les Français sans distinction verront 12 euros prélevés automatiquement chaque mois sur leur compte bancaire. Ces fonds serviront à financer l'aide militaire à l'Ukraine.
Alors, petit coup d'œil aux commentaires sous la vidéo. Denise et Monique s'insurgent, je refuse de payer. C'est une honte, dit Sylvie, c'est un scandale, dit Martha. Et puis, noyés dans cet océan d'indignation, quelques internautes courageux qui essayent, sans grand succès, de leur expliquer que c'est une fake news. Cette vidéo, j'ai fait une petite recherche. Je l'ai trouvée aussi sur TikTok avec différentes versions. J'en ai vu 6 et elle circule aussi sur Instagram.
Et comment on fait dans ces cas-là pour savoir que c'est une fake news au Drazo?
Petit truc que je vous donne, à chaque fois qu'une vidéo prétend qu'une loi a été votée, et avant de vous énerver, vous cliquez sur legifrance.gouv.fr. C'est le site où vous trouvez toutes les lois. Et là, vous verrez que non, Aucune, mais alors aucune, ne parle d'une taxe pour aider l'Ukraine. La vidéo, celle qu'on vient d'entendre, prétend que la loi a été votée en secret. Mais une loi, ce n'est jamais secret. Tout est transparent, tout est publié. Et puis regardez toujours qui publie la vidéo. Là, c'est une obscure entreprise de télécommunications qui ne parle pas du tout de télécommunications. Il suffit de parcourir son fil Facebook et vous allez voir, c'est un nid de fake news.
Bonne vigilance. Merci à votre écoute, chers auditeurs, avec Aude Razo. On se retrouve demain. Je vous souhaite un bel après-midi en musique. Avec Gloria Gaynor dans quelques secondes à Will Survive.
Votre radio locale France Bleu devient ici.
Ici, parce que c'est la radio qui parle d'ici, de mes voisins, de ma région.
Ici, c'est mon village, c'est ma vie quotidienne.
Ici, une radio qui vit à vos côtés, jour après jour.
Quand j'écoute ici, au moins je sais où je suis.
Vous écoutez ici.
Ici, le média qui vit comme nous.
Comme nous.
Ici.
Paris Île-de-France.
Actu locale, musique et bonne humeur.
Votre radio, ici Paris Île-de-France, Gloria Gaynor à l'instant avec I Will Survive pour bien poursuivre ce bel après-midi. Excellent mercredi avec nous. Bon, on a 28 degrés de moyenne aujourd'hui, donc ça va grimper dans les prochains jours. Faites tout ce que vous pouvez pour profiter de la nature, mais pensez à vous mettre à l'ombre. On va poursuivre en musique évidemment, USA for Africa dans la suite, et puis le nouvel Indochine. Vous le savez, le groupe a sorti un nouvel album il y a quelques mois, Babel Babel, et ça c'est l'amour fou qu'on va vous faire découvrir sur votre radio ici Paris Île-de-France. C'est parti.
Ici Paris Île-de-France, Sophie Nolveau jusqu'à 16h.
à tes cauchemars. Tu m'appelleras la nuit, tu auras peur dans ton lit. Et là, tu me verras sur ton cheval de bois. Je serai
Île-de-France.
There comes a time when we heed a certain call. When the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone somewhere soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need.
Beyond the world, beyond the children, beyond the ones who make it brighter than day. So let's start giving.
Make a better day, just you and me.
C'était pour une belle cause, c'était en 85, on écoutait USA for Africa avec We Are The World à l'instant sur votre radio ici Paris, Île-de-France. Et je vous emmène en balade maintenant parce que dans Accès Privé cette semaine, eh bien on célèbre déjà la fête de la musique qui aura lieu ce samedi, vous le savez. Notre reporter Muriel Jordan nous emmène dans le 20e arrondissement au studio Ferber. Créé en 1973 par René Hamelin, ici on t'enregistre, écoutez bien, Carla Bruni, Alain Souchon, Francis Cabrel et plein d'autres artistes. Notre reporter Muriel nous emmène en coulisses aux côtés de JC, le manager du studio.
Devant la rue Pierre Mouillard qui fait angle avec la rue du Capitaine Ferber, on est dans l'univers de l'aviation parce que pour la petite histoire, Ferber c'était un aviateur et Mouillard, précurseur de l'aviation. Mais là où je vous emmène, on ne fabrique pas, il n'y a pas d'avion, rien de tout ça, pas d'aéronautique, rien, JC.
Rien, on est dans la campagne à Paris.
Et on est dans l'un des rares studios mythiques, studios d'enregistrement à Paris, les studios Ferber, et on est devant la porte.
Et on ouvre la porte. Nous entrons au studio Ferber.
Studio Ferber, créé en 1973. Alors j'y sais, je vous suis, vous êtes là depuis combien de temps, Ferber ?
Moi, je suis arrivé en 1985 pour reprendre les rênes, le management du studio. Là, on rentre dans le studio A, qui est le plus grand studio de Ferber, qui fait 187 mètres carrés.
Oh, ça sent le bois.
Exactement, bah, c'est très bois. Et on entend les petits grincements du parquet. Parce qu'en fait, il faut que le parquet soit très sec pour une question de son. Et donc, en dessous, il faut mettre des tapis pour éviter des grincements sur certains instruments.
Vous êtes ici depuis les années 80. Qu'est-ce qui vous plaît ici ? Qu'est-ce qui vous anime ?
L'ambiance qui est très très familiale et les artistes qui sont très très fidèles. Ils reviennent constamment, donc il y a une proximité amicale. Si on peut être ami avec des artistes, ça c'est une autre question.
Découverte d'un studio d'enregistrement comme il en existe en seulement une poignée à Paris. On est dans les studios Ferber, hein, où les plus grands ont défilé. Alors c'est difficile de dresser une liste complète, mais Gainsbourg, Christophe Cabrel, Bachung, Manu Chao. Là, on est dans le studio A. Est-ce qu'on sait ce qu'il y avait avant les studios Ferber ?
Alors, c'était une usine de fer à repasser.
Et aujourd'hui, des artistes récurrents qui viennent régulièrement enregistrer ici. D'ailleurs, est-ce que vous communiquez sur ceux qui viennent ou au contraire, vous avez peur qu'il y ait des files d'attente là-devant ou des fans ?
Généralement, je communique après, quand c'est terminé, ce qui évite les fans. Parce qu'on a eu une fois une artiste qui s'appelle Selena Gomez et elle qui communiquait en direct et ça a été une horreur absolue.
L'émeute ?
Oui, parce qu'il y a eu des paparazzi en moto. Et donc, à partir du moment où il y a les paparazzi en moto, il y a les gens qui suivent. Et ça a vraiment été très, très dur à gérer, effectivement. Donc, c'est mieux de communiquer après.
Et demain, direction l'Opéra Royal de Versailles. Et pour retrouver les podcasts d'Accès Privé, eh bien, c'est sur ici.fr. Ici l'infotrafic en temps réel sur nos routes franciliennes, 151 km de bouchons cumulés à vous signaler pour le moment. Attention à l'est de la capitale à cet accident survenu sur l'A86 extérieure à hauteur de Rosny-sous-Bois. Un poids lourd et une voiture sont impliqués. À l'est toujours, accident sur le périph extérieur entre la porte de Vincennes et la porte de Montreuil. Je vous emmène maintenant au sud-ouest de Paris, accident sur la N12 dans le sens province Paris de Bois-d'Arcy vers Guyancourt, un poids lourd et une voiture sont impliqués sur deux voies. Une voie est fermée à gauche. Et puis à l'ouest, toujours, on nous signale un obstacle sur l'A86 extérieure au niveau plus ou moins de Colombes. Soyez prudents et si vous avez d'autres infos pour nous, 01 42 30 10 10.
Ici Paris-Île-de-France, numéro 1 sur l'infotrafic.
On en parlait justement dans cette visite d'Accès Privé des studios Ferber. Amir nous arrive, mais Manu Chao qui a enregistré là-bas. Le voici avec Je ne t'aime plus.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus.
ICI.
ICI.
Ici Paris-Île-de-France. Ici.
T'as de la fièvre, je tremble. Devant tes lèvres, il me semble que je fais bien de me taire. Tu fermes les yeux, je me perds. Quand t'as la rage, je suis sanguin. Quand tu voyages, je me sens loin. Dans cette partie de poker, disons que t'es mon joker. C'est donc ça, la fusion de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux, nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Chaque fois que je cours, tu t'essouffles. J'appelle au secours et tu souffres. La vie me pique, ça te fait mal. Tu te fatigues, j'en ai marre. Si on t'abîme, je prends le coup. Tu manges un fruit, j'en ai le goût. J'ai froidé la fée d'hiver pour réchauffer l'univers. C'est donc ça, l'addition de deux corps élémentaires. C'est donc ça, être complémentaire. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Ils sont beaux, nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Sont beaux nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Le temps ne sera pas délétère, tu sais, j'ai hâte de vieillir avec toi. Je te laisserai pas quitter la terre, je me mettrai entre ciel et toi. C'est donc ça, aimer quelqu'un beaucoup plus fort que soi. C'est donc ça, besoin de rien pour s'endormir le soir. C'est donc toi, la fin du jeu. Sont bons nos échanges, au point qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux. Qu'on pourrait vivre avec un cœur pour deux.
Amir, sur votre radio, ici Paris, Île-de-France, avec Complémentaire, le nouveau single de Marine, pour nous emmener gentiment aux infos de 14h. Juste avant, on aura The Cure avec Close to Me. On va se régaler sur votre radio locale, ici Paris, Île-de-France.
Recruter une personne de plus de 50 ans ? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement.
Ici, Paris-Île-de-France. Toute la journée.
Actu locale, musique et bonne humeur. Ici.
Thank you.
Île-de-France.
J'ai grillé tous les stops, trop de questions dans ma tête. J'aimerais me poser dans des bois qui m'enveloppent. Je passe toujours à côté, je les cherche en cachette. Dans mon horoscope, moi j'aimerais qu'on me dise mon avenir, qu'on me tease. Que des bonnes surprises et qu'on existe tous les deux. J'ai le cœur maladroit.
Maladroit, c'était Marine à l'instant sur votre radio, ici Paris, Île-de-France.
Ils l'ont fait. Le PSG a remporté la Ligue des Champions. Ici Paris, Île-de-France, fier d'être la radio des supporters du PSG.
Excellent mercredi 18 juin à l'écoute de votre radio ici.